Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission du samedi avec des rubriques un peu spéciales aujourd'hui puisque je vous propose un best-of de l'année culturelle et puis un autre best-of de l'année littéraire 2015. Bonne écoute de cette émission présentée aujourd'hui par Anna Kubishta.
Culture sans frontières.
Et pour cette toute première émission culturelle de 2016, je vous propose donc de revenir sur l'année écoulée avec une petite sélection d'entretiens réalisés avec des artistes, des personnalités du monde culturel. Et on commence avec le réalisateur franco-tchèque Petr Václav, dont le film Cestaven, Janeta, pour son titre en salle française, a été couronné par pas moins de 7 lions tchèques, l'équivalent des Césars. Drame social qui raconte l'histoire d'un jeune couple de Roms de Bohême du Nord qui prétend à une vie ordinaire. Cestaven est le fruit d'un intérêt de toujours du réalisateur pour la communauté rome, comme il l'avait confié au micro de Denisa Tomanova en mars 2015.
Comme j'ai fait mon premier film, Marianne, il y a très longtemps, sur un enfant qui grandit à l'assistance publique, c'est un film qui racontait en fait l'histoire assez exemplaire d'un destin de Rome de l'époque communiste, c'est-à-dire d'un enfant qui est pris de force plus ou moins par l'assistance publique et qui est obligé de grandir dans les orphelinats et dans les maisons de correction d'État, qui finit par vivre bien entendu en prison parce que c'était un peu ça le chemin obligatoire. Et puis maintenant j'ai eu envie de raconter ce qui est arrivé aux Roms aujourd'hui, donc voilà, dans ce monde post-industriel où ils ont perdu le travail et comme il n'y a plus de logements HLM en République tchèque, ils ont été progressivement forcés à partir dans des nouveaux ghettos concrets en ce début du millénaire. Donc tout ça, je trouvais ça révoltant. Et je suis allé en République tchèque pour me documenter un peu. Et puis j'ai écrit assez rapidement le scénario et j'ai trouvé tout. Enfin, je suis allé chercher les acteurs, donc les non-acteurs. C'était plus difficile. J'ai pris 7 mois de casting sauvage. Et voilà, je crois que grâce à cette petite histoire que j'ai déjà avec les Roms depuis le lycée, j'ai pu arriver à vraiment bien les comprendre et parler d'eux ni sans romantisme, ni sans condescendance, ni sans, bien entendu, la haine qui accompagne souvent le regard de la société majoritaire. Bah, les Roms m'intéressaient depuis toujours. Quand j'ai grandi ici en Tchécoslovaquie, c'était un pays fermé, c'était encore le rideau de fer, on pouvait pas voyager, on voyait pas des étrangers, quasiment pas. Les gens de couleur, ça n'existait pas ici. Donc les Roms, c'était l'altérité, une altérité excellente, une altérité, la seule altérité visible. Et en même temps, une altérité avec laquelle on ne parlait pas, c'était comme une loi non dite. On ne parlait pas aux Roms. On les voyait, par exemple, travailler dans des excavations. On voyait les Russes ouvriers dans la rue, souvent au sol, parce que soit ils réparaient les trottoirs ou ils creusaient les trous pour l'électricité et pour le téléphone. Et ils étaient là, mais sans qu'on puisse les approcher. Donc c'est pour ça, je crois, que depuis toujours, le destin de ces inconnus m'intéressait, m'intriguait.
Au printemps dernier, l'historien français Serge Klarsfeld, également célèbre chasseur de nazis, était présent à Prague avec sa femme Beate pour présenter une exposition consacrée à l'album d'Auschwitz. Sur près de 200 clichés de cet album apparaissent les visages de milliers de juifs de Hongrie et de Ruthénie subcarpathique, soit une région de l'ancienne Tchécoslovaquie, qui périront dans ce camp dont le nom est à jamais synonyme de la barbarie nazie. Il avait rappelé lors de son passage à Prague l'histoire incroyable de cet album.
En 1979, j'avais envoyé un jeune étudiant qui avec pour mission de regarder ce qui se passait pour les cimetières juifs et d'autre part d'essayer d'entrer au musée juif d'État. C'était pas un musée juif, c'était un musée d'État. Et d'essayer de voir ce qu'il y avait dedans d'intéressant. et il a bien réussi sa mission, et il m'a envoyé 70 photos qui représentaient les Juifs à l'arrivée à Auschwitz. Je connaissais ces photos, toutes ces photos, mais je croyais qu'elles venaient d'Auschwitz, parce que, en fait, le musée juif d'Auschwitz, de Prague, avait envoyé copie des photos qu'ils avaient à Auschwitz, et Auschwitz, au lieu de mettre provenance musée juif de Prague, ils avaient mis Auschwitz. Et comme ça représentait les Juifs à Auschwitz, tout le monde pensait que ça venait d'Auschwitz. Et comme il n'y avait pas de relation entre les historiens de l'Ouest et de l'Est, qu'on ne se rendait pas à Auschwitz, on n'avait pas pu se rendre compte de cela. Moi, je m'en suis rendu compte par le nombre des photos qui m'étaient envoyées. Et je lui ai demandé, il m'a dit, il y a à peu près 150 à 200 photos qui se trouvent donc au musée de Prague avec des négatifs en vert. Donc j'ai compris que ça venait d'un seul album et j'ai commencé une enquête pour savoir quelle était l'histoire de cet album. Et dans les ouvrages de Krauss et Kulka qui ont publié les premiers ces photos en 56, j'ai compris que ça venait d'un album que une déportée avait retrouvé, qu'elle avait laissé faire un duplicata de l'album en se faisant payer pour pouvoir partir aux États-Unis. Au procès de Auschwitz en 64, Lily Jacob était venue avec l'album, avait montré l'album, une photo avait servi à identifier Baretsky, un des SS qui faisait la sélection. Bon, j'avais en main le résultat de l'enquête. Le résultat de l'enquête, c'est que l'album se trouvait certainement aux États-Unis, chez Lily Jacob. Et tout de suite, j'ai fait paraître dans le New York Times, j'ai prévenu le New York Times, j'ai dit, c'est le document le plus précieux de toute la Shoah. Et c'est un document qui équivaut au manuscrit de la Mer Morte pour ce qui concerne Israël. Ce sera le document le plus important de cette période, puisque sans lui, on ne visualiserait pas ce qu'a été l'extermination des Juifs dans un camp, puisqu'on voit l'arrivée d'un convoi qui va en grande partie disparaître dans les chambres à gaz. Pas seulement un convoi, d'ailleurs plusieurs convois.
Début juillet s'est déroulée la 50e édition du Festival du film de Carlo Vivari. C'est d'ailleurs un film franco-américain, Bob and the Trees, du français Diego Ongaro, qui a remporté le Globe de Cristal. Et parmi les invités de cette année, la réalisatrice roumaine Anca Damian, qui avec son film d'animation, La Montagne Magique, qui est sorti en France ces derniers jours, signe le deuxième opus d'une trilogie consacrée à l'héroïsme.
L'animation m'a tenté pour enlargir les moyens cinématographiques, le langage cinématographique. Moi, je trouve une liberté vraie d'expression. Ça me laisse, la mise en scène est tout à moi. Je la fais de rien. Je ne suis liée à mon histoire. Je peux trouver mes acteurs parfaits, les mouvements, les locations parfaites, tout ça, parce que c'est une surréalité que je peux créer et dire l'histoire plus concentrée au sens, au ce que je veux dire. Et ça me donne beaucoup de liberté. Et ça, je crois, ça ne peut pas se faire pour toutes les histoires. Par contre, je commence un film de fiction avec des acteurs. Je ne fais pas toujours. Mais il y a des histoires qui doivent être dites comme ça.
Alors justement, pour cette histoire en particulier, est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler un petit peu l'histoire de la montagne magique ? Vous suivez le parcours d'un homme dont vous pouvez nous parler un peu plus. Et en quoi, justement, ça vous a aidé l'animation pour accompagner l'histoire de cet homme ?
Effectivement, j'ai choisi cette histoire de Adam Jacek Winkler. Après, j'ai fini Krulik. J'avais envie de faire une trilogie sur l'héroïsme. Krulik, c'est le rapport de l'homme avec la mort. Et le premier stage, c'était un peu inconsciente, naïve. C'est Krulik a donné sa vie pour sa vérité, mais il ne voulait pas mourir. Mais il a perdu sa volonté de survivre juste pour prouver sa vérité. Il a donné sa vie pour ça. Le deuxième stage que j'ai eu dans ma tête, c'est quelqu'un qui veut mourir pour changer le monde.
Ce qui est le cas d'Adam Winkler.
Adam était comme ça. Il voulait donner sa vie pour changer le monde. C'était un peu l'histoire de Don Quichotte. C'était parce qu'il voulait le faire seul. C'est un mélange de cynisme, d'aventure, d'humour. C'est on pourrait dire il est un fou, mais moi j'aime ce sorte de folie.
Enfin, Pelzaigne, en Bohême de l'Ouest, a été ville européenne de la culture 2015. De nombreux événements ont été organisés tout au long de l'année, mais aussi des projets à long terme, comme des résidences artistiques. Le photographe français Guillaume Chauvin participait à l'une d'entre elles et a choisi de suivre ainsi, le temps de son séjour, une trentaine d'habitants de cette ville de Bohême de l'Ouest, toutes origines, tous métiers confondus.
À tout le monde, j'ai demandé pourquoi est-ce qu'ils avaient choisi de m'accueillir, parce que pour moi c'est très étrange. Si on me proposait un tel projet, moi je sais pas si je dirais oui ou non. Même pour moi c'est étrange de prendre des photos de gens au quotidien, chez eux, avec leurs enfants, parfois au réveil, j'ai jamais fait ça avant. Ma motivation personnelle c'était ça, c'était quelque chose que je n'avais jamais fait, du coup ça m'intéressait. Chez certaines c'était aussi ça la motivation, rencontrer un Français, parce qu'ils me disent qu'ils en voient pas beaucoup.
C'est une espèce rare.
C'est une espèce rare, en voie de disparition peut-être. Et bon, après, c'est aussi des gens, je pense, qui, ceux qui ont répondu à l'appel sont plutôt ouverts au projet artistique. Donc, ils voulaient voir aussi un projet artistique en réalisation, en direct. Certains, je pense, étaient contents d'en faire partie, puis de montrer aussi un aspect positif de leur culture. Comme ça, la place n'est pas prise par un autre qui pourrait être... plus qu'asocial ou négatif, enfin bon, bref. Et après, bon, il y a la curiosité aussi. Et puis, je sais que pour certains, par exemple, une manager qui était enceinte, elle m'a dit que c'était aussi pour avoir un souvenir de cette période-là, de sa vie. Donc, chacun a des motivations différentes. Puis, je pense que tous ceux qui ont accepté le projet avaient un grand cœur. Donc, ça a joué aussi, quoi.
Allez, soyons originaux. Après ce best-of de la culture, tout de suite un best-of de la littérature préparé pour vous par Václav Richter.
Rencontre littéraire. Tout au long de l'année écoulée, nous vous avons présenté dans cette rubrique différentes personnalités du monde littéraire. Le moment est venu de jeter un regard en arrière. Pour cette dernière rencontre littéraire en 2015, nous avons retenu les extraits d'entretiens réalisés avec certaines de ces personnalités invitées au micro de Radio Prague, des personnalités de divers horizons dont les idées méritent votre intérêt. La ferme de Petrkov, tout petit village du plateau tchéco-mourave, est devenue le théâtre de la vie de la poétesse française Suzanne Renaud après son mariage avec le poète et graveur Bohuslav Reinek. La seconde moitié de sa vie a été étroitement liée à cette vieille maison plantée au milieu d'un paysage à la beauté austère que Suzanne a appris à aimer. L'importance que cette bâtisse a eue pour elle se reflète d'ailleurs dans le titre choisi par Lucie Tuchkova, l'auteur de sa biographie, Suzanne Renaud, Petrkov 13. Venue en mars dernier dans nos studios, Lucie Tuchkova a présenté son livre et expliqué entre autres que Suzanne Renaud était loin d'être une victime passive des événements et de la situation politique de son époque, car c'est elle-même qui a fait le choix de cette vie difficile.
je dirais, c'était elle-même qui a choisi quand même, mais c'était grâce à sa force intérieure qu'elle avait, parce qu'elle a déjà, comme j'ai mentionné, elle a déjà au début dit son oui. Elle a dit son oui à Bohusa Freinek, c'était son choix de dire son oui. Et après, à plusieurs reprises, elle a répété ce oui décisif de sa vie. Puisque déjà en 1947, elle était consciente de la situation qui devenait très difficile en Tchécoslovaquie. Par exemple, elle a repris son passeport, ou bien elle a fait la tentative de reprendre son passeport, elle a refait sa carte d'identité en France, à ce qu'on sache, et elle réfléchissait à la possibilité d'émigrer en France, on dirait d'émigrer pour la famille et pour elle de revenir en France. Mais elle se disait, voilà, qu'est-ce que deviendraient les enfants ? C'est pas seulement qu'elle se sentait déjà assez vieillie pour pouvoir recommencer la vie en France, mais c'était également à cette époque-là, donc 47 et tout au début de 48, qu'elle se posait la question. Alors, le domaine, qu'est-ce qui va se passer avec la maison de Petrkov, avec ce petit château, on dirait plutôt manoir, avec tout le jardin qui est là ? Et les enfants, que vont-ils devenir en France sans héritage ? Donc, c'était pas la question de posséder quelque chose, mais c'était la question comment assurer l'avenir des enfants qui étaient enracinés donc, dans le paysage de Vysočina, également comme Bohuslav. À ce qu'on sache, c'était Suzanne qui a dit non, il faut rester ici. Donc, quand même, elle a fait ce choix tellement difficile. Comme elle a dit oui à la vie avec Bohusla Freinek, donc après elle a dit quand même son oui. On ne peut même pas imaginer comment difficile de le prononcer, de rester en Tchécoslovaquie. Bien sûr que ce choix l'écrasait énormément, on ne peut pas imaginer. Elle n'a jamais plus revu sa famille après 47. La dernière visite en France en automne 47, après donc jusqu'au mois de janvier, jusqu'à sa mort en 1964, elle n'a plus revu sa famille. Mais ce qui était vraiment lourd, et ce qu'elle ne pouvait pas influencer, c'était de même pas avoir la possibilité de revenir pour un court séjour en France. Alors ça, ce n'était pas de son choix, bien sûr, et c'était écrasant pour elle. Mais pourtant, elle a su faire face à tout ça grâce à sa force intérieure, grâce à la foi en Dieu, et grâce à l'entourement de sa famille, de ses plus proches qu'elle aimait beaucoup, beaucoup.
Certaines œuvres littéraires constituent de véritables défis pour les traducteurs, parfois découragés par leur caractère, leur style ou leur structure. Parmi ces œuvres considérées par d'aucuns comme intraduisibles, figure sans aucun doute Un été capricier, Rosmarné Leto, un ouvrage en apparence modeste que son auteur a sous-titré roman humoristique. En signant cet opuscule qu'il considérait comme mineur, Vladislav Vančura ne pensait certainement pas qu'il deviendrait un des livres tchèques parmi les plus populaires et cités. Écrit dans une langue archaïque et métaphorique qui jure avec la simplicité quasi banale de son sujet, ce petit livre a longtemps attendu son traducteur en français. C'est finalement l'écrivain et ancien professeur à l'Université libre de Bruxelles, Jan Rubesch, qui a relevé le défi. En janvier dernier, il a évoqué au micro de Radio Prague toutes les difficultés de son entreprise.
Alors, il y a d'une part la difficulté de donner à des phrases, par exemple, les manières de l'été, etc., qui sont devenues presque des locutions courantes pour les Tchèques, de leur donner la même valeur en français. Mais d'autre part, il est évidemment un certain nombre de locutions pour lesquelles j'ai eu beaucoup de mal à trouver des équivalents. J'ai été, de ce point de vue-là, décidé à me faire soutenir par un certain nombre d'amis français qui soit parlent tchèque, soit sont des lecteurs cultivés, en leur soumettant le texte pour la lecture. Et je dois dire que, d'un côté, mon ami Xavier Galmiche m'a un peu aidé dans le choix de certaines locutions qui correspondaient mieux au style de Vančura. D'autre part, je l'ai fait lire à une amie qui est éditrice elle-même et qui a apprécié le roman, elle a fait très peu de remarques finalement, mais qui m'a dit « c'est un roman qui ne va jamais intéresser le lecteur français ». Parce que, à la fois le style, l'atmosphère, ce côté dépassé, ce genre de situation où on rit plutôt tout doucement pour soi-même, ça ne correspond pas au style de l'humour français. C'est plus l'humour anglais, peut-être, qui est dans la finesse de la langue et pas dans la situation grotesque. On imagine difficilement Louis de Funès dans le film qui pourrait être tourné à partir de cette nouvelle, mais on imagine plutôt un cinéma anglais avec ce genre de l'humour. Donc elle a été assez sceptique sur le succès de ce roman en France. Et je suis de son avis, je pense que c'est quelque chose qui correspond plus à l'humour tchèque que à la typologie de l'humour français.
J'avais besoin de trouver quelque chose de difficile à faire et j'ai décidé un jour d'affronter la montagne, affirme la romancière Yannick Granek pour expliquer sa décision d'écrire un livre sur le génial mathématicien Kurt Gödel et sa femme Adèle. Intitulé « La déesse des petites victoires », le livre qu'elle a consacré à ce couple insolite et qui lui a valu le prix des libraires a déjà été traduit dans plusieurs langues, dont le tchèque. Invité du salon Le Monde des Livres en mai dernier, Yannick Granek avait alors présenté son premier roman au micro de Radio Prague en expliquant tout d'abord le sens profond du titre de son ouvrage.
À mon sens, parce que Kurt Gödel, lui, il a eu la grande victoire, celle de la postérité. Il est devenu un dieu des mathématiques, une idole. Mais sans Adèle, sans sa femme, il n'aurait pas survécu et il n'aurait certainement pas pu concevoir toute son œuvre. Et donc Adèle, c'est la déesse des petites victoires, celle du quotidien, et en particulier celle des petites cuillères, puisque quand son mari était anorexique et extrêmement dépressif, et pendant une période de sa vie, quand il était au sanatorium, elle le nourrissait à la petite cuillère à petite, après petite cuillère, et jour après jour, pendant 50 ans, elle l'a porté à bout de bras et elle l'a maintenu en vie. Donc c'est ses petites victoires sur la mort, la dépression, et c'est elle, la déesse du quotidien.
Peut-on dire donc que la vie d'Adèle Gödel, que le lecteur retrouve comme une vieille femme acariâtre, n'a pas été donc une vie ratée, comme il semblerait au premier abord, mais au contraire une vie certes extrêmement difficile, mais une vie très riche et même peut-être victorieuse?
Oui, absolument, parce qu'on me dit souvent que c'est une femme qui a vécu dans le sacrifice, mais je ne crois pas du tout. Je pense que c'est quelqu'un qui a choisi son destin, qui savait pertinemment que cet homme serait difficile et qu'il faudrait le porter jusqu'au bout. Mais elle avait en quelque sorte une mission à accomplir et elle a rempli cette mission. Donc je pense qu'à la fin de sa vie, quelque part, en tout cas c'est le personnage tel que je l'ai construit, c'est là la différence avec la réalité évidemment, part avec une certaine forme de complétude. Justement, parce qu'on parle d'incomplétude pour Gödel, elle part avec cette complétude d'avoir réussi quelque chose de sa vie, d'avoir rempli sa mission.
En janvier dernier, après les attentats contre la revue satirique Charlie Hebdo, nous avions invité dans nos studios Pavel Fischer, ancien ambassadeur de la République tchèque à Paris. Cet entretien est devenu d'actualité après la série d'attentats qui ont bouleversé Paris, la France et le monde, voilà quelques semaines de cela. Partout, les gens se retrouvent confrontés à une série de questions que ces atrocités font ressurgir. En République tchèque, malgré le fait qu'elle ne compte que 10 à 20 000 membres, la minorité musulmane suscite de la nervosité et même de la peur au sein d'une partie non négligeable de la population. Pavel Fischer nous avait confié ce qu'il pense de ce genre de réaction.
J'observe que nous avons souvent peur de ce que nous ne connaissons pas. J'observe que nous faisons parfois l'amalgame entre une culture de l'islam et entre un djihadiste qui se réclame de l'islam. Alors je crois, pour ce qui est la République tchèque, que notre société ne sait pas de quoi elle a peur. Peut-être elle a peur des ombres autour d'elle. Et c'est une nouvelle fois invitation à une curiosité intellectuelle, à un courage personnel et politique en particulier.
Et quelles sont donc les conséquences des événements de ces derniers jours pour notre attitude vis-à-vis du terrorisme en général? Pour protéger la démocratie, faudra-t-il maintenant réduire la démocratie, c'est-à-dire prendre des mesures qui réduiront nos libertés démocratiques?
Qui dit liberté doit dire responsabilité. Et nous vivons dans un continent qui est en double feu. À l'est, nous avons la guerre en Ukraine. Au sud, nous avons des guerres fratricide dans des pays du nord de l'Afrique, et nous avons en particulier ceux qui se réclament d'un certain djihad islamique. Alors, il faut se rendre compte que, au nom justement de nos libertés, au nom justement des valeurs qui nous sont chères, il faut faire très attention à ne pas devenir victime de ces radicalismes qui ont surgi à notre seuil. Car sur le seuil de l'Europe, il y a un vrai problème. Et si on ne le nomme pas, si on n'y porte pas attention, nous serons vraiment condamnés à devenir victimes à notre tour. Donc oui, il y a quelque chose à repenser, et c'est aussi pour moi une invitation de travailler dans une coopération beaucoup plus étroite encore avec nos alliés, avec nos voisins au sein de l'Union européenne.
C'était donc quelques extraits d'entretien réalisés au cours des 12 derniers mois. Merci de l'attention que vous avez prêtée à nos rencontres littéraires. Nous vous invitons à écouter cette émission aussi au cours de l'année 2016.
C'est la fin de cette émission culturelle et littéraire. Retrouvez dès dimanche notre rubrique musicale et à partir de lundi, nos émissions hebdomadaires. Merci de nous avoir suivis. Bon vent, ahoy.
Thank you.